Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, ravi de vous retrouver dans 30 minutes comme tous les matins. Un débat et nous serons ensemble pour commenter la perspective de la présidentielle de l'année prochaine au Gabon et surtout pour parler de la stratégie de l'opposition qui espère provoquer une alternance. Nous sommes à 8 mois du scrutin et plusieurs partis estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire front commun. Reste à savoir si, comme en 2016, les opposants parviendront à surmonter leurs divisions et à s'entendre sur un programme commun, voire même sur une candidature unique, et ce, dès le premier tour, car l'élection présidentielle de l'année prochaine sera marquée par le retour du scrutin présidentiel à deux tours. L'opposition parviendra-t-elle à s'unir ? Pour quel objectif ? On en parle évidemment ce matin. 33 9 693 693 70, et vous continuez à poster vos réactions, vos commentaires sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook RFI, Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et pour commencer, des questions sur ce procès qui se tient depuis maintenant deux mois en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009. Bonjour Sou.
Bonjour.
Merci de nous appeler de Sigiri, dans l'est de la Guinée.
Oui, j'ai des questions par rapport au procès qui se déroule actuellement à Conakry.
Oui.
L'audition de l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, Claude Pivi, s'est terminée. Son témoignage s'oppose à celui de Toumba Diakité. Deuxième question.
Oui.
Claude Pivi peut-il fournir des preuves de ce qu'il avance et de quelles à des versions semblent privilégiées par les juges.
Effectivement, deux hommes, deux versions bien différentes. Sur les 11 accusés, 9 ont été appelés à la barre pour s'expliquer sur leur rôle dans le massacre de plus de 150 personnes qui manifestaient au stade de Conakry ce 28 septembre 2009. Et parmi ces 11 accusés, Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, et Toumba Diakité, l'ancien aide de camp de Dadis Camara. Bonjour Mathias Reynal.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Conakry, vous suivez ce procès, Claude Pivi, Toumba Diakité, deux versions différentes. Rappelez-nous d'abord celle de Claude Pivi.
Oui, commençons par la comparution la plus récente, celle de Claude Pivi alias Coplan. Elle était très attendue. Parmi les 11 prévenus du tribunal criminel de Dixine, il est l'un de ceux qui faisait partie du premier cercle de la junte au pouvoir entre 2008 et 2010, chargé de la sécurité présidentielle. Vous l'avez dit, Juan, élevé au rang de ministre par Moussa Dadis Camara. Il avait 120 hommes sous ses ordres, précise-t-il devant le tribunal. Ce soldat, vétéran de trois guerres civiles en Afrique de l'Ouest, au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, était très craint à Conakry à l'époque du CNDD, la junte, accusé d'avoir tué des manifestants au stade, d'avoir pillé des quartiers acquis à l'opposition, d'avoir torturé des militants de l'opposition, entre autres le 28 septembre 2009. C'est un homme changé, fatigué, la mine, renfrognée, qui a comparu durant deux semaines à Conakry.
Et face au tribunal, il a raconté qu'il avait passé le lundi 28 septembre 2009 au lit.
Oui, le matin, il était en mission hors de Conakry, se remémore-t-il à son retour à la mi-journée. Il part se coucher, c'est à son réveil qu'il dit avoir découvert à la télévision l'ampleur du massacre qui vient de se dérouler au stade. « J'ai entendu des murmures », raconte-t-il, « des murmures à propos de militaires qui avaient tué des gens ». Des rumeurs, assure Pivi, accuse Moussa Diakité Camara, le secrétaire d'État chargé de la lutte contre le crime organisé au moment des faits, Marcel Guy Lavogui également, garde du corps de Moussa Dadis Camara, mais surtout Aboubacar Diakité, dit Toumba, l'aide de camp du président, qu'il aurait donc décidé d'arrêter. Mais le chef de l'État lui aurait demandé de rester calme. Une commission d'enquête internationale devait alors venir en Guinée, lui dit-il. C'est à elle de faire ce travail. Voilà la version de Pivi. Toumba, lui, a reconnu devant la cour être allé au stade de Conakry, mais pour sauver des leaders politiques.
Oui, et dans ses déclarations, Toumba avait plutôt épargné Claude Pivi.
Oui, à la barre, le médecin militaire a déclaré avoir vu Diakité et Marcel au stade. Il est catégorique. Pivi, Toumba l'aurait simplement aperçu à Amdalaï avec des hommes. Un quartier qui se trouve à Amdalaï, à plus de 3 km de l'enceinte sportive. Au plan dément, il n'a jamais été là-bas. Le 28 septembre 2009, il accuse Toumba de mentir. C'est sa parole contre la sienne dans cette affaire où seuls les accusés ont livré leur récit, où les témoins n'ont pas encore été entendus. Rappelons par ailleurs que ce dossier ne comporte aucune preuve scientifique ou matérielle de l'implication des prévenus dans les faits. Il est donc extrêmement difficile de dire aujourd'hui quelle version sera privilégiée par le tribunal. En tout cas, Toumba a déjà remporté son duel face à Pivi au sein de l'opinion publique en Guinée. Si beaucoup ont trouvé Aboubacar Diakité convaincant, les incohérences et les imprécisions de Claude Pivi ont laissé les Guinéens sceptiques.
Oui, en tout cas, on constate en vous écoutant Mathias Reynal que Toumba remporte son duel face à Pivi au sein de l'opinion publique. On verra ce que décideront les juges, bien évidemment. Il faut quand même préciser, Mathias Reynal, que 3 prévenus doivent encore comparaître.
Et parmi eux, Moussa Dadis Camara, appelé à la barre hier, l'ancien chef de la junte n'a parlé que 7 minutes. Il a assuré être affaibli par la maladie, ne pas être en mesure de donner, je cite, sa part de vérité. Le président du tribunal lui a accordé donc un délai d'une semaine. Moussa Dadis Camara va-t-il accepter de parler lundi prochain? Va-t-il enfin raconter aux Guinéens ce qui s'est vraiment passé le 28 septembre 2009 et les jours suivants? Alors que le bilan de la répression, je le rappelle, comporte encore aujourd'hui des zones d'ombre, la junte aurait tout fait pour maquiller ses crimes. Des dizaines de Guinéens sont toujours portés disparus.
Procès à suivre, évidemment, avec vous, Mathias Reynal et Mokhtar Ba, nos correspondants à Conakry. So, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Bien sûr, Juan, je suis vraiment satisfait de cette réponse.
Merci à vous, je crois que c'est une première pour vous.
Oui.
Bon, bah, tout s'est bien passé.
Oui, merci, Juan.
Bah, c'est normal, on est là pour ça. Et rappelez quand vous le souhaitez, évidemment, dès que vous écoutez une information sur RFI, que vous souhaitez un complément pour mieux comprendre et décrypter l'actualité, surtout, n'hésitez pas, on se fait un plaisir de vous répondre en direct tous les matins. Bonjour à Sega.
Bonjour, Juan.
À Saint-Louis, au Sénégal. Et vous souhaitez que l'on revienne sur les récents incidents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au Sénégal?
Oui, c'est cela. La semaine dernière, la vidéo d'une bagarre entre les députés de l'Assemblée nationale sénégalaise a tourné sur les réseaux sociaux. Mmh. En septembre, les gendarmes étaient déjà intervenus dans l'hémicycle. Comment expliquer la fréquence de ces débordements à l'Assemblée nationale récemment?
Bonne question, effectivement. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Cette scène, jeudi dernier à l'Assemblée, a provoqué un tollé. La députée de la coalition au pouvoir, Aminata Ndiaye, a été giflée par un député de l'opposition. Elle a répliqué en lançant une chaise. Un autre élu lui a donné un coup de pied dans le ventre. Charlotte Hydrac, comme le rappelait Assega à l'instant, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'Assemblée est agitée par des violences.
Oui, on peut dire que ça avait mal commencé, hein, entre guillemets, avec cette rentrée parlementaire le 12 septembre. C'était vraiment déjà la foire d'empoigne, hein, avec des bagarres. On s'en souvient, un micro arraché, des jets de bouteilles d'eau. Bref, les gendarmes, effectivement, avaient dû intervenir avant le vote pour la présidence de l'Assemblée. Donc, des scènes chaotiques déjà et qui sont liées, je pense, à la nouvelle configuration, hein, de l'hémicycle, très divisé. C'est inédit au Sénégal, un hémicycle très polarisé depuis les élections législatives du 31 juillet, puisque le pouvoir a perdu sa majorité absolue. Il y a de nouveaux députés, notamment de la coalition Yewi Askanoui, des députés qui disent la majorité mécanique, c'est fini, on marque notre camp. Et de fait, hein, là, depuis le début du marathon budgétaire qui se poursuit en ce moment, les débats ont souvent été très houleux.
Oui, concernant les violences de jeudi dernier contre la députée Amine Diaye, chaque camp, Charlotte Hydrac, s'accuse mutuellement d'être responsable.
Voilà, alors vous avez l'APR, le parti présidentiel, qui dit c'est une agression inqualifiable et qui est, je cite, hein, révélatrice d'une culture de la violence de la nouvelle opposition parlementaire. De leur côté, des responsables Yewi Askanoui, eux, dénoncent des provocations de la part des députés de la majorité, et cela depuis le début de cette 14e législature. Il y a aussi en toile de fond, et c'est intéressant, un débat sur le rapport entre le religieux et le politique au Sénégal, puisque ce qui a provoqué, hein, au départ ces tensions, ce sont des propos d'Amine Diaye concernant un chef religieux, Serigne Moustapha Sy, qui est aussi une personnalité politique, hein, du parti PUR et de la coalition d'opposition Yewi Askanoui. Alors Amine Diaye, elle avait en substance déclaré en Wolof, un marabout avait dit que si Khalifa Sall, donc l'ancien maire de Dakar, allait en prison, il irait en prison avec lui, mais il s'est dédit. Donc en bref, elle lui a avait reproché de ne pas avoir tenu parole. Une insulte, selon les leaders de Yiwi Askanoui. Mais les défenseurs d'Amin Diaye, eux, répondent qu'il n'y a absolument rien d'injurieux dans ses propos et que ça ne peut de toute façon en aucun cas justifier les violences physiques contre la députée.
Voilà, vous souhaitez réagir à ces violences, aux incidents à répétition à l'Assemblée nationale. Profitez-en, la libre antenne, vendredi, 33 9 693 693 70 et on en parlera ensemble. Assega, vous avez une autre question peut-être ?
Oui, justement, comment ramener le calme au sein de l'Assemblée ? Des sanctions pourraient-elles être prises contre les députés violents ?
Alors, Charlotte Hidrac, des sanctions sont-elles envisagées ?
Alors, en tout cas, Amin Diaye a saisi un avocat, Maître Baboukar Cissé. Je l'ai joint au téléphone hier et il a déposé une plainte donc sur la table du procureur de la République contre les deux députés donc impliqués, Massat Assembe et Mamadou Niang. Une plainte pour coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Ce sont des motifs qui peuvent éventuellement mener à la prison. Et puis d'autres plaintes ont été annoncées de la part d'associations féministes notamment et de la part de membres du mouvement de femmes de l'APR, le parti présidentiel. J'ajoute quelques nouvelles d'Amin Diaye. Selon donc son avocat, elle était hier toujours hospitalisée en observation. Elle est enceinte d'après le certificat d'hospitalisation cité par l'avocat. L'échographie a montré un embryon de 9 semaines d'aménorrhée et ce certificat fait état d'une menace d'avortement post-traumatique. Donc ouais. On verra pour la suite de la procédure.
Assega nous demandait comment ramener le calme au sein de l'hémicycle.
Écoutez, il y a eu des appels de certains députés à la responsabilité pour permettre des débats sereins. Le président de l'Assemblée nationale, lui, reste toujours calme. Il y a aussi des appels au calme de la part de citoyens lambda, entre guillemets, qui se désolent vraiment de cette image de l'Assemblée. Mais bon, en vue de la prochaine élection, la présidentielle de 2024, pas sûr que ça suffise à faire baisser la tension. Cette présidentielle qui est déjà dans tous les esprits et avec le flou, toujours sur une éventuelle troisième candidature ou pas du président Macky Sall.
Vous êtes à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor ou ailleurs au Sénégal. Appelez-nous, on parlera justement de l'image que vous renvoient vos députés dans la libre antenne vendredi matin. Assega, a-t-on répondu à vos questions ? Assega, êtes-vous là ? Ah, un petit souci de ligne entre Paris et Saint-Louis. Bon, bah, j'espère que oui, que tout a été reçu 5 sur 5 par notre auditeur. Charlotte Hidrac, bonne journée à Dakar.
Bonne journée.
Merci d'avoir été avec nous. Dakar, où il est 8h23. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Correspondant permanent de RFI à Pékin. Stéphane, on s'est permis de vous appeler. On a reçu des questions concernant la fameuse politique zéro Covid en Chine. Ibrahim, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Arès, votre technicien du jour.
Oui, Arès qui s'occupe ce matin de rappeler les auditeurs pour vous permettre de passer sur l'antenne de RFI. Ibrahim, vous êtes à Conakry, on vous écoute.
Merci Juan. Les autorités chinoises ont annoncé entrer dans une nouvelle phase de la politique zéro Covid après que des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays. Comment expliquer que le gouvernement accède aux demandes des manifestants alors que le cas de Covid sont au plus haut ?
Stéphane Lagarde, visiblement les autorités allègent les règles sanitaires dans plusieurs villes après 3 ans de restrictions pour le moins draconiennes.
Oui, c'est ça, et ça va même assez vite, Ibrahim. Là, les choses s'accélèrent vraiment ici, dans cette levée, en ce relâchement des restrictions. Alors, c'est évidemment les manifestations, des manifestations simultanées, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça a vraiment choqué probablement au plus haut du pouvoir, puisqu'on n'avait pas eu de manifestation comme ça depuis 30 ans à Pékin. Donc, des gens qui s'opposent à cette politique du zéro Covid. Donc, il y a toutes ces mesures qui sont annoncées. Il faut dire quand même, Ibrahim, qu'avant ces mesures, déjà, le Conseil d'État chinois, la Commission nationale de la santé avaient annoncé ce qu'on appelle le zéro Covid dynamique, donc des restrictions sanitaires moins fortes, notamment pour voyager entre les provinces, pour essayer de relâcher un petit peu les mesures. Mais des villes, dans certaines villes, ce n'était pas appliqué, donc ce qui a entraîné cette colère sociale. Mais déjà, auparavant, c'était amorcé. On pensait un peu comme Deng Xiaoping, vous savez, qui disait « on va y aller à tâtons sur les réformes, on va traverser la rivière en marchant sur la pointe des pieds sur les pierres, comme ça ». On pensait que ça allait aller comme ça jusqu'au printemps. Petit à petit, la Chine allait s'ouvrir. Mais là, ça va vite, très vite maintenant, effectivement.
Alors que visiblement, c'est ce que dit Ibrahim, et il vous a écouté très certainement, le nombre de cas donc de contamination est particulièrement haut.
Ah oui, très haut. Hein. On n'a jamais connu de flambée comme ça en 3 ans en Chine, à part au début, tout au début dans la province du Roubaix. Mais sinon, ça n'a jamais été comme ça. Et ce qui donne d'ailleurs, il y a donc cette envie des petites gens, des gens qui n'ont plus de travail, hein, les commerçants notamment, les livreurs qui ne pouvaient plus travailler parce que, par exemple, ils étaient en confinement ou ils ne pouvaient plus rentrer dans les villes. Donc il y avait effectivement un vrai problème économique pour tous ces gens. De manque à gagner, hein. C'était très dur quand même, donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette révolte, mais en même temps il y a une grande peur, hein. Ici on ne sait pas du tout où on va, là. Hier il y a des gens qui me disaient on se sent un peu tout nu parce qu'on doit, par exemple on n'a plus de tests à faire à l'entrée, de présenter de tests Covid, vous savez qu'ici on faisait des tests tous les 2 jours hein, depuis mai dernier, on n'a plus besoin de les présenter, aujourd'hui encore annonce de Pékin, on n'a plus besoin de présenter un test Covid pour rendre négatif bien sûr, pour rentrer dans les supermarchés, dans les commerces, dans les bureaux, tout ça fait que la population... T'inquiète, hein, j'ai vu hier des gens qui remettaient des lunettes de protection, qui remettaient des gants pour aller dans le métro. Donc c'est pas si simple parce qu'il y a aussi toute la campagne de vaccination qui est en cours. Juan Ibrahim, hein, elle est pas finie. On pense que la Chine peut en 2 mois finir de vacciner, en tout cas d'achever le schéma vaccinal complet pour les plus de 90 ans. Mais on est loin encore du résultat. On sait pas ce que valent les vaccins chinois, même si ça protège quand même. Bref, il y a toutes ces questions. Et il y a eu une grande campagne aussi des autorités, des médias d'État pour dire n'ayez pas peur. Attention, n'ayez pas peur d'Omicron, parce que pendant 3 ans, ben, les gens, on leur a dit que c'était terrible, le virus. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette campagne d'information auprès de la population, mais ça ne se fait pas tout seul. On a l'impression d'être un peu lâché comme ça. Et beaucoup de gens s'inquiètent hein, vraiment de ce qui va arriver.
Stéphane Lagarde, en direct de Pékin, merci d'avoir répondu à Ibrahim, qui nous appelait donc de Conakry. Anne Verdaguet nous rejoint. Bonjour Anne.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service éco de RFI, on a reçu des questions après la décision de l'Union européenne de plafonner le prix du pétrole russe à 60 dollars. Hervé, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Et merci de nous appeler de Vanga, c'est au centre-ouest de la RDC.
Oui, oui,
on vous
dans
écoute.
La province de Kwi. Alors Juan, je ne comprends pas pourquoi les pays de l'Union européenne cherchent à plafonner les prix du pétrole russe alors qu'un embargo sur ces produits est entré en vigueur.
Ouais, c'est une question de bon sens, Anne Verdaguet. D'un côté, on plafonne les prix, et en même temps, il y a un embargo qui est entré en vigueur hier.
Oui, alors, effectivement, bonjour Hervé, c'est pas évident à comprendre, mais je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. En fait, le but d'un embargo, on le sait bien, c'est de ne plus acheter de pétrole russe. C'est ce qui va se passer pour les Européens, mais d'autres pays, bien sûr, pourront continuer à acheter ce pétrole. La Russie, vous le savez, est le deuxième exportateur mondial de brut. Donc, les revenus liés au pétrole depuis le début de la guerre représente 46 milliards d'euros. C'est une grosse manne pour la Russie. Donc on essaye évidemment de tarir cette manne. Il fallait donc aussi que la Russie ne puisse plus vendre son pétrole ailleurs. C'est ce qu'on essaye de faire donc avec ce plafonnement, Juan. Et donc, quel mécanisme cela va-t-il être? Eh bien, c'est 60 dollars le baril. Ça concerne aussi donc les navires qui livrent du pétrole russe à des pays tiers qui pourront plus être assurés ou transportés par des entreprises occidentales au-delà de 60 dollars le baril. Les Occidentaux dominent le marché des assurances et du fret maritime. Ça ne va pas empêcher donc la Russie de vendre son pétrole ailleurs, mais ça va bien sûr limiter l'acheminement vers des pays tiers.
Concrètement,
en fait,
hein. Anne Verdaguet, essayons d'être pédagogue. Quels seront les effets de ce plafonnement et de cet embargo?
Alors, l'embargo, bien sûr, c'est historique. Hein. C'est la première fois qu'il n'y aura plus de navires pétroliers russes qui vont entrer les ports maritimes en Europe. Hein. Donc, l'Union européenne dit que c'est 90% des volumes importés qui seront impactés. Le plafonnement à 60 dollars le baril, les experts sont un petit peu
dubitatifs.
Hein. Oui. Alors, il faut savoir que le baril de Brent, mer du Nord, il est à 85 dollars. Actuellement, la Russie vend 65 dollars le baril. Donc, ce n'est pas très loin de 60 dollars. Le plafonnement, donc ça ne va pas changer grand-chose finalement hein, pour les Russes. Les Russes qui d'ailleurs indiquent qu'ils vont essayer de faire leur propre flotte de tankers, qui vont continuer d'ailleurs à négocier avec leurs partenaires, la Chine, l'Inde, etc. Voilà, donc on essaye de surtout de se tourner vers les gros acheteurs, hein, Chine,
Moscou,
l'Inde et la Turquie.
Oui. Oui, Moscou, l'Inde, la Turquie, effectivement. Et Moscou a dit hier, en tout cas c'est le porte-parole du Kremlin, il a dit, bon, vos sanctions, peut-être elles sont très bonnes, mais enfin, aucun impact sur notre économie.
Oui, et on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est aux pays tiers de voir un peu comment ils vont discuter avec la Russie et d'assumer un petit peu tout ça.
À suivre. En tout cas, compliqué. Merci Anne Verdaguet d'être venue nous expliquer le plus simplement possible ce mécanisme mis en place et entré en vigueur hier par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Hervé, bonne journée à Vanga.
Il y a une deuxième question.
Malheureusement, on arrive à la fin de la première partie. On est obligé de rendre l'antenne pour la dernière édition d'Afrique Matin. Mais Vanga s'est promis. On vous rappelle et on essaye de voir quand est-ce qu'on peut vous reprendre en direct sur l'antenne d'RFI. À bientôt Hervé. Merci Anne Verdaguet. 9h30.